Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Métropolez-vous pour un numéro qui prolonge notre série consacrée à la biodiversité dans la métropole toulousaine, en particulier à sa faune sauvage. Nous avions déjà abordé la situation des populations d'oiseaux, de poissons et de mammifères vivant sur le territoire métropolitain. Il manque à ce tableau des animaux moins imposants par la taille, mais tout aussi importants dans un écosystème et que nous croisons quotidiennement. Je veux parler des insectes. Il y en a qui nous sont très familiers, d'autres le sont moins, voire pas du tout, mais tous, par leur présence et leur nombre, sont des indicateurs de l'état de la biodiversité sur un territoire donné. On sait que depuis des décennies, les populations de certaines familles d'insectes ont pu souffrir de l'utilisation des produits phytosanitaires dans le secteur agricole ou pour l'entretien des parcs et jardins. A contrario, de nouvelles espèces sont apparues avec des conséquences parfois néfastes pour d'autres ou même pour les humains et leurs activités. Qu'en est-il dans la métropole toulousaine? Comment se portent les populations d'insectes dans cet espace? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Et pour connaître la situation des populations d'insectes sur le territoire de la métropole toulousaine, j'ai invité Pierre-Olivier Cochard, chargé d'études naturaliste au sein de l'association Nature en Occitanie. Bienvenue à vous aussi, monsieur, et merci d'avoir accepté cette invitation à partager votre passion et vos connaissances avec les auditeurs de Radio Présence.
Et bonjour.
Être chargé d'études naturalistes à Nature en Occitanie, je me posais la question, je ne dois pas être le seul, qu'est-ce que cela implique comme mission pour l'association et dans quel domaine précisément?
Les missions sont assez variées. Chargé d'études naturalistes, ça sous-entend qu'on touche un petit peu à tout. Depuis une quinzaine d'années que je travaille à l'association, j'ai abordé des thèmes assez variés comme la botanique, l'herpétologie, donc la discipline qui étudie les serpents, les lézards, les crapauds, les grenouilles. Et donc j'ai quand même une bonne passion pour l'entomologie. Et comme on le verra au cours de la discussion, ce n'est pas toute l'entomologie, puisqu'il y a des groupes sur lesquels je suis plus spécialisé que d'autres, puisque l'entomologie, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout connaître, malheureusement.
Est-ce que vous menez des études uniquement pour le compte de l'association et à sa demande, ou est-ce que ça peut être aussi pour d'autres structures, qu'elles soient publiques ou privées?
Alors, j'ai la particularité d'avoir deux casquettes. Donc, une en tant que salarié de l'association Nature en Occitanie, en tant que donc chargé d'études, et une casquette indépendante en micro-entreprise où je réalise des expertises pour les bureaux d'études, notamment en sous-traitance, pour les projets d'aménagement de type photovoltaïque, éolien, parfois sur des réserves naturelles, des suivis ou des inventaires.
C'est-à-dire que vous intervenez avant un chantier, par exemple, pour en mesurer les conséquences sur la faune et notamment sur les insectes, les reptiles aussi, si j'ai bien compris, les batraciens.
Oui, alors c'est toujours en amont, quand il y a un projet qui est envisagé sur une surface donnée, il faut faire un état des lieux initial qui correspond à l'étude, une partie de l'étude d'impact qui va être ensuite présentée à l'administration, qui validera ou non le projet.
Et pour parler des insectes, est-ce que vous avez mené des études récemment ou il y a quelques années sur certains d'entre eux, sur le territoire qui nous intéresse par exemple?
Alors avec Nature en Occitanie, on a énormément travaillé sur les criquets et sauterelles, donc ce qu'on appelle les orthoptères, donc criquets, sauterelles et grillons. On est une petite équipe là-dessus, donc je ne suis pas tout seul, donc il y a certains collègues qui sont à fond sur ce domaine. Et on a abouti notamment il y a quelques années une liste rouge des espèces menacées d'Occitanie, donc qui correspond à une liste rouge avec une méthodologie particulière qui est mise en place par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc avec une procédure, une recette de cuisine, on va dire, à suivre, qui est obligatoire. Et on pourra peut-être en reparler, mais il y a d'autres listes rouges qui existent à l'échelle régionale sur les libellules, sur les papillons et d'autres qui sont en préparation.
Comme donc, on va parler, entre autres, des espèces qu'on peut considérer comme menacées, voire très menacées pour certaines, évidemment, nous allons évoquer ce sujet. Alors, de manière très général, quelles espèces d'insectes ou familles d'insectes rencontre-t-on dans la métropole toulousaine selon peut-être aussi les types d'espaces que compte ce territoire?
Alors là, cette question est
immense.
Elle est tellement vaste, on a une demi-heure et en plus je ne peux pas prétendre tout maîtriser. Je ne pourrais pas dire le nombre d'espèces présentes, ça me semble totalement impossible. Même le nombre de familles, puisqu'il faudrait que je potasse tous les livres, parce qu'il y a des petites familles d'insectes qui sont très peu connues, ou même parfois qui sont orphelines, dans le sens où on n'a pas de spécialistes. Ça, c'est absolument terrible, mais l'entomologie, que ce soit en Occitanie ou en France, ou même en Europe, il y a des domaines entiers où on a presque quasi personne, où les bouquins de référence datent d'il y a 50 ans ou 60 ans, ou parfois sont en russe ou en allemand. Mais on a des familles qui sont quand même beaucoup plus étudiées que d'autres. Les plus classiques, donc les papillons, certaines familles de coléoptères, notamment les gros coléoptères. On a donc les criquets.
Il y a quoi dans les coléoptères ? Il faut donner quelques exemples pour que nos
Alors les
nos
coléoptères,
puissent se raccrocher
dans
à
les
choses
plus connues, bah, je vais parler de ce que j'étudie un petit peu dans les coléoptères. Et on a une famille qui est très célèbre, ce sont les coccinelles. Mais ça représente quasi rien à l'échelle de l'ordre des coléoptères, parce que les coccinelles en France, c'est autour de 120 espèces, 125. Donc c'est quasi rien,
mais rien que les coccinelles, il y en a quand même 125.
Voilà, rien que ça, à étudier, c'est très très long, quoi. On a aussi donc des petites familles, comme même des ordres, comme les dermaptères, qui sont les perce-oreilles. Voilà, donc j'essaye de trouver des exemples assez connus d'animaux. Les blattes, donc les cafards, il y a très peu d'espèces finalement dedans, mais qui sont célèbres. Et à l'opposé, on a des groupes énormes avec de l'ordre du millier d'espèces. Donc je parle pour la France, mais quasi aussi pour l'Occitanie, comme les hyménoptères, les diptères, donc les fameuses mouches. Mais les diptères, ça va des mouches aux moustiques, hein, etc., etc. Donc je pense qu'on parle de l'ordre de dizaines de milliers.
Et puis il y a les lépidoptères aussi.
Les lépidoptères. Alors les lépidoptères, tout le monde pense aux papillons qu'on voit de jour, mais il y a tous ceux qui volent de nuit qui sont beaucoup, beaucoup plus nombreux.
Les familles les plus représentées, ou les espèces les plus représentées sur un territoire comme la métropole toulousaine, ce sont lesquelles ?
Ah.
Là aussi, c'est compliqué de répondre.
Là encore, des questions difficiles, oui. Alors le territoire, donc, il est assez varié, puisque ça va de la ville pure et dure, quasi minérale, avec quelques plantes dans les trottoirs, jusqu'à, on en parlait un petit peu avant l'émission, la forêt de Boucone, qui paraît très très sauvage comparée à cette partie de la ville. Donc on a un gradient en termes de diversité d'espèces qui est évident, c'est-à-dire que forcément, on a plus d'espèces en cumul de toutes ces familles, dans des milieux naturels ou semi-naturels, parce qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment naturel, hein, la forêt de Boucone, c'est exploité, que dans un milieu minéral, parce que l'élément premier pour les insectes, c'est quand même la nourriture, et la nourriture, ce sont des plantes. La plupart des insectes sont quand même phytophages, et les autres sont prédateurs d'autres insectes. Bon, après, il y a aussi des petits insectes parasites, etc., mais globalement, c'est phytophages ou alors prédateurs d'autres insectes. Donc il faut quand même qu'il y ait des végétaux au départ. Donc la ville, qui est un élément minéral, on va retrouver des insectes favorisés par les plantes dans les jardins, mais en dehors des jardins, ça peut être dans les fissures de trottoirs, quand on laisse pousser quelques plantes, ou quand on installe des plantes de façon ornementale, parce qu'il y a des insectes qui ont décidé que c'était pas mauvais non plus à manger, même si ça vient d'Amérique du Sud ou d'Australie. Après, on a des insectes qui sont affiliés à l'être humain, qui se nourrissent de l'être humain, donc voilà. Eux, ils ont trouvé une bonne solution, c'est qu'il n'y a pas besoin de plantes. On attaque directement l'animal qui vous a introduit dans un milieu. Et puis après, dès qu'on arrive dans des petits jardins, même en pleine ville, on peut avoir une diversité d'insectes qui est largement supérieure à ce qu'on a dans les parcelles environnantes autour de Toulouse, puisque c'était très agricole.
Est-ce qu'il y a des espèces qui sont typiquement urbaines, c'est-à-dire qui sont propres au milieu urbain ?
Alors, que dire là-dessus ? Ben, on va tout de suite aborder les cas de parasites pour les humains.
Hein.
On peut prendre deux cas, puisque c'est des parasites qui prennent du sang. Les moustiques, notamment le moustique tigre. Il y a d'autres moustiques qui ne sont pas urbains. Hein. Le moustique tigre, c'est parfaitement adapté. Il y a des simplifications d'écosystèmes qui font que lui, il se débrouille pour se reproduire dans une canette de bière jetée dans un coin. Il y a de l'eau qui tombe dedans et hop, ça lui fait un site de reproduction. Donc il a peu de prédateurs, c'est un écosystème hyper simple, c'est presque un truc de laboratoire, on va dire, la canette qui est au soleil, ça chauffe et hop, les larves se développent. Et à l'opposé, on a un truc plus complexe, puisque c'est des milliers d'années de coévolution, ce sont les punaises de lit, qui sont aussi des hématophages, donc qui ont besoin de sang, qui sont des punaises, mais parmi quelques milliers d'espèces de punaises en France, ça représente une petite famille hein, de punaises spécialisées dans le sang. Pas seulement le sang des mammifères, parce qu'il y a d'autres punaises du genre Cimex, c'est le nom de ces punaises. Et qui sont spécialisés par exemple dans les oiseaux ou dans les chauves-souris, et c'est des coévolutions avec l'être humain depuis des milliers d'années, depuis sans doute notre vie dans les grottes, mais qui aujourd'hui se répandent de nouveau parce qu'on vend tout et n'importe quoi, des meubles, les pontes peuvent être planquées dans des fissures de meubles, etc. Donc là, on a des insectes purement urbains, on va dire.
Après, il y a des insectes aussi qui sont propres à certains milieux, je pense notamment au milieu aquatique. Alors on sait à Toulouse, on a la Garonne, on a aussi les affluents de la Garonne, on a des bassins dans les parcs et jardins en ville, et puis il y a des lacs autour de Toulouse, la Ramée, les Quinsols et quelques autres. Qu'est-ce qu'on va voir là comme espèces typiquement aquatiques ? Alors je pensais aux libellules, on en a déjà parlé, mais il y en a certainement d'autres.
Alors il y a beaucoup, beaucoup d'autres espèces. Les libellules ont en particularité de voler, et donc elles sont aquatiques uniquement pour la partie larvaire. Donc elles ont besoin de l'eau, s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de libellules, pas de reproduction de libellules. Par contre, les libellules peuvent aller chasser très loin de l'eau. Donc c'est parfois, même dans le centre de Toulouse, on peut voir parfois dans les rues, j'ai pu observer assez fréquemment des caloptérix, qui sont des libellules avec des ailes bleutées magnifiques, qui ont des vols un petit peu de papillons un peu lents. Et on peut en voir quasi place du Capitole parfois. Alors elles ont l'air assez perturbées par les vitrines des magasins, non pas par ce qui est vendu dedans, mais par le reflet.
Okay.
Je pense qu'elles prennent ça pour de l'eau. Elles sont un petit peu perdues, mais à vol de libellule, la Garonne est à même pas un kilomètre. Donc voilà, c'est des bestioles qui dispersent. Elles sont afféodées à l'eau pour la reproduction uniquement et après donc s'envolent. Il y a d'autres insectes qui sont dans l'eau tout le temps. Donc là, on va parler par exemple de certains coleoptères aquatiques. Donc tout le monde dit oui, les dytiques, mais les dytiques, il y a plein d'espèces. Voilà, il n'y a pas que les dytinés dans les familles.
Là, on est vraiment familles. Dans des familles hein, d'insectes.
Voilà, dans des coléoptères. Donc il y en a qui font que 1 ou 2 mm. Il y a des brouteurs, il y a beaucoup de prédateurs. Donc ils vont manger un petit peu. Tout ce petit monde se mange volontiers. Hein. C'est d'une brutalité.
Et
assez brutale en général. On a aussi dans les aquatiques, par exemple, puisque je m'intéresse pas mal à ce groupe, les punaises. Donc je disais qu'il y a plusieurs milliers d'espèces de punaises, et il y a des punaises qui vivent dans l'eau, qui ont besoin de l'eau, et qu'on peut retrouver donc dans la Garonne, ou à la surface de la Garonne, pardon, ça peut être dans l'eau ou à la surface de l'eau, on va y revenir tout de suite, donc ça peut être le canal du Midi, ça peut être des petites mares, ça peut être tout simplement des piscines qui sont un peu à l'abandon, une piscine chien particulier, en quelques mois, il y a une vie qui s'installe dedans. Ça va très très vite, parce que tout simplement ces punaises ou ces coléoptères volent, et donc sont capables, on n'imagine pas, mais quand on voit un animal, un insecte au fond de l'eau, qu'il est capable de sortir de l'eau, de dire « bon, bah, j'en ai marre, je vais ailleurs et je vais essayer de trouver un plan d'eau meilleur ».
Alors une question aussi qu'on peut se poser, parce qu'on entend souvent dire, comme pour les oiseaux d'ailleurs, « oh là là, les insectes, certaines espèces, il y en a de moins en moins ». Quelle est la réalité de l'évolution des populations d'insectes sur un territoire comme celui de la métropole toulousaine? Les tendances doivent être les mêmes que sur le territoire national. Est-ce qu'on sait celles qui se portent vraiment de moins en moins bien et celles, au contraire, qui ont plutôt tendance à proliférer?
Eh bien, c'est là où on peut reparler des listes rouges régionales, donc liste d'espèces menacées. Alors, le problème, c'est qu'on ne dresse des listes rouges qu'à partir d'une méthodologie. Cette méthodologie exige d'avoir beaucoup de données, d'informations, donc d'observatrices et d'observateurs. Et ça, sur un pas de temps suffisamment long, puisque l'idée est d'estimer un déclin ou pas. Et de l'évaluer avec une catégorie très précise.
Oui, parce que autant on peut compter les mammifères ou même les oiseaux, compter les insectes, ça devient un peu plus compliqué.
Alors, il y a des protocoles de comptage avec des passages à des dates régulières, mais le problème, c'est que les insectes, c'est tellement vaste. Il y a des bestioles qui vont voler au mois de mars, d'autres qui vont voler au mois d'avril, par exemple, ou au mois de septembre pour les papillons. Donc, il faut y passer pas mal de fois dans l'année. C'est du budget, hein, d'ailleurs, tout ça, parce que c'est du temps.
J'imagine bien.
Beaucoup de temps. On est dépendant des conditions météo, etc., etc. Donc, à partir de ces listes rouges, on peut dire concrètement combien on a d'espèces menacées sur un territoire. Donc, on a des listes rouges européennes, nationales et occitanes. En Occitanie, pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, j'espère ne pas oublier, on a les libellules, les papillons, alors papillons de jour uniquement, incluant les hygènes, un petit groupe de papillons, et les orthoptères. Donc, on voit que c'est, par rapport aux milliers et milliers d'espèces, c'est rien, quoi, c'est quasi rien. Pour les orthoptères, en Occitanie, on a 168 espèces.
Il y a 40. Quoi, par exemple, dans les orthoptères?
Alors, dans les orthoptères, bon, pour les plus connus, en ce moment, vous pouvez entendre, par exemple, de nuit, les courtilières, qui sont des sortes, ce qu'on appelle les taupes grillons, qui chantent au début du printemps, qui chantent la nuit. Ça fait un
alors,
chant,
on dit ce sont des grillons, c'est pas tout à fait ça, en fait.
C'est pas, proche, plus des, mais... pas plus des taupes que des grillons, quoi, mais
voilà.
Voilà, on va dire que c'est proche des grillons, voilà, c'est une petite famille à part. Donc, dans les orthoptères, 40 espèces sont menacées sur les 168. Dans les lépidoptères, donc dans les rhopalocères, sur les 240 et quelques espèces présentes, on en a... Non, pas 240, ça c'est au niveau national. Il doit y en avoir pas mal quand même en Occitanie, on a 57 de menacées. Dans les odonates, sur 79 espèces, donc les libellules, on en a 17 de menacées. Donc ça, c'est parce qu'on a pu mettre en place suffisamment de bases de données informatiques, de connaissances accumulées au fil des décennies, faire une analyse fine, et donc on est assez nombreux pour pouvoir avancer ces arguments d'espèces menacées. Mais tout le reste, c'est complètement inconnu, quoi. Alors, on a quelques spécialistes, on voit qu'il y a des trucs qui déclinent, mais on ne l'a pas évalué concrètement.
Les papillons, puisque vous en parlez, donc les lépidoptères, les papillons de jour, si j'ai bien compris, là, il y a un déclin qui est clairement identifié.
Il y a des déclins, on va dire, ce n'est pas un déclin. Ce qu'on identifie, c'est qu'il y en a moins en termes de surface de répartition, de présence, pardon. C'est-à-dire qu'on a des zones où historiquement, voilà, par exemple, un papillon qui s'appelle le damier de la succis, qui est une espèce protégée, qui est d'intérêt communautaire, donc espèce directive habitat, fameuse Natura 2000, qui était présent jusqu'aux années 1980 ou 1990, près de Toulouse, en allant par exemple vers Clermont-Lefort, sur certains coteaux ou pieds de coteaux. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc c'est clair et net, on avait les localités et il n'y est plus. Ouais, donc il y a un déclin en termes de surface occupée et on a un déclin global qui est valable pour toute l'Europe, pour tous les pays tempérés, avec l'industrialisation, l'urbanisation, la fragmentation des milieux, les pesticides en général. Et c'est ce que les Anglais, alors j'avais noté, c'est IPC, donc c'est Insect Population Collapse. Donc c'est un syndrome d'effondrement des populations. Donc c'est pas une extinction. L'extinction, c'est plus dans des zones tropicales où on détruit carrément. On a encore toutes les espèces, Mais globalement, il y a un effondrement des effectifs.
Des individus, voilà. Des effectifs.
Et ça, c'est beaucoup plus dur à évaluer. Donc, je complète juste là-dessus. C'est que, par exemple, si on reprend le cas du papillon, le damier de la succise, on peut dire que la surface occupée est plus faible. Par contre, les papillons qui sont encore présents partout, mais peut-être les effectifs sont beaucoup plus bas, là, ça demande un investissement qui est énorme en termes de temps, parce que ce n'est pas seulement de se dire « il y en a, il n'y en a pas », c'est de dire « est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y en a mille ?»
Alors, il y a une autre espèce que vous connaissez bien, vous en avez déjà parlé, et que tout le monde connaît, ce sont les sauterelles et les criquets. Parfois, on pouvait même observer ça dans son jardin, chez soi, hein, devant sa maison. Moi, depuis quelques années, j'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup moins, voire plus du tout, à certains endroits où il y en avait précédemment. Qu'est-ce qu'il en est réellement ?
Alors, j'ai donné les 168 espèces en Occitanie. Bon, il y en a certaines qui ne sont pas présentes dans l'agglomération, mais il y en a 42 menacées. Donc, effectivement, il y en a certaines qui sont en fort déclin, d'autres qui se maintiennent, et même certaines qui sont en augmentation. Ça relève de l'exception, hein, franchement. Et celles qui sont en augmentation, souvent, c'est des espèces qui sont opportunistes, qui vivent en ville. Je prendrais par exemple un grillon qui s'appelle le grillon bordelais. Alors à Toulouse, ça va parler aux gens, je pense.
Oui.
Ce petit grillon, il est de plus en plus présent à la faveur des ballasts de voies ferrées. Il se répand, on l'entend en fin d'été, notamment le long des trottoirs. Par exemple, vers le secteur de Saint-Agne, où il y a la voie ferrée, on peut l'entendre sur un kilomètre de long, dans les caniveaux, etc. Il y a un grillon qui s'appelle c'est Grius bimaculatus, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, le grillon bimaculé peut-être, qui, à la faveur des étés de plus en plus chauds, arrive de la zone méditerranéenne et qu'on retrouve dans la ville de Toulouse en train de chanter en fin d'été, un peu partout, dans des terres pleines, des tendres comme ça. Alors, est-ce qu'il se reproduit véritablement ou est-ce qu'il est juste arrivé en volant ? On ne sait pas, mais voilà, il y a aussi des expansions. Inversement, donc, on a des espèces qu'on ne trouve presque plus autour de Toulouse, mais c'est au cas par cas, c'est-à-dire dans les plaines. Alors j'élargis autour de Toulouse, on avait des zones humides autrefois. On avait un criquet le criquet ensanglanté, parce qu'il a des pattes rouges sang magnifiques sur un fond vert. Et donc ce criquet, on ne trouve plus que dans les zones humides de montagne ou du Piémont, des Pyrénées, quelques tout petits points dans le Gers ou dans le Tarn, etc. Et après, il faut vraiment aller genre dans l'Aubrac ou des endroits froids et humides. Et on pourrait croire que c'est un truc qui est inféodé aux montagnes. Mais pas du tout, en fait. C'est juste qu'il n'y a que là qu'il reste des zones humides encore de bonne qualité. Mais ce n'est pas un problème de climat dans ce cas-là, c'est juste de destruction des zones humides.
Bon, ouais. Puisque vous en parlez, on va expliquer quand même aux gens, parce que beaucoup de gens confondent criquet et sauterelle. Ce qu'il faut regarder, ce sont les antennes.
Alors, pas que. On peut regarder les antennes. Il y a un petit problème avec les antennes, c'est comme les insectes, j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont aucune pitié entre eux. S'ils s'attaquent, ils peuvent avoir un organe. Voilà. Les antennes des sauterelles sont censées être plus longues que le corps de l'animal, longues et fines et souples. Et les criquets, c'est des petites antennes.
Voilà.
Donc,
c'est
des grandes antennes, voilà, plus épaisses. Et les grandes antennes sont aussi valables pour les grillons. Mais une sauterelle ou un grillon qui s'est fait attaquer et qui a perdu ses deux antennes. Donc ça va nous emmener un petit peu loin, mais il y a une espèce de guêpe qui est prédatrice d'orthoptères, et notamment de sauterelles, et qui capture plein de sauterelles et qui les ramène dans son nid pour nourrir la progéniture, la future progéniture. Et en fait, elle a la particularité, pour que ça rentre dans le nid, de couper les antennes des sauterelles.
Ah, puisque vous en parlez, autre insecte que tout le monde connaît, que parfois on redoute, surtout ceux qui sont allergiques à leur venin, les guêpes, les abeilles, les frelons, là aussi, comment ça évolue? Et bon, c'est surtout les abeilles qui inquiètent les gens. On dit les abeilles, il y en a de moins en moins.
Mais oui, il y en a de moins en moins. Enfin, il y a de moins en moins de tout. Donc, c'est malheureusement un gros, gros problème qui va nous retomber sur le coin de la tête. Parce que les insectes, dans quelques millions d'années, s'il n'y a plus d'êtres humains, ça repartira, quoi. Mais c'est un peu notre équilibre, c'est notre carte de survie, quand même, la biodiversité. Et les abeilles, donc on parle souvent de l'abeille domestique, puisque c'est ce qu'a fait le buzz, sans mauvais jeu de mots, mais depuis des années, parce qu'il y a quand même un lobby de l'apiculture qui sait faire de la communication là-dessus, donc a alerté sur certains pesticides, même des thèmes qui reviennent en ce moment, hein, des lois qui repassent sur certains pesticides autorisés qui ne le sont plus, qui le reviennent, etc. etc. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. L'abeille domestique, c'est Apis mellifera, c'est une espèce parmi peut-être 1000 espèces d'abeilles. Je prétends pas être spécialiste des abeilles du tout, hein. J'y connais rien du tout, mais je vois à peu près les chiffres. Mais dans les abeilles, vous avez des insectes, des spécimens, des espèces qui font 2 mm, 3 mm, des espèces qui sont spécialisées parasites d'autres abeilles, ce qu'on appelle des abeilles coucou. Donc vous voyez, il y a un monde absolument incroyable, des abeilles qui vivent en bourgade, mais pas vraiment en colonie comme des abeilles domestiques avec une chef et des ouvrières par exemple, des abeilles qui sont solitaires, vous en avez qui sont terricoles, qui vont creuser des petits terriers, d'autres qui sont dans les murs, etc. Donc tout ça globalement, quand il y a un traitement insecticide, c'est même traitement pour tout le monde.
Hein. Mais oui, tout le monde y passe.
Voilà, tout le monde y passe. On peut quand même favoriser ces espèces, mais il faut qu'il y ait une diversité de fleurs, parce que toutes les abeilles sont quand même adaptées à des espèces de fleurs, et certaines sont vraiment inféodées à des plantes en particulier. Et si je peux continuer un tout petit peu, il y a une espèce d'abeille qu'on trouve même en ville. Enfin, il y en a plein d'espèces. Il y en a une qui est particulière. Tout le monde lutte contre le lierre en général en disant quoi, là, c'est pas bien, ça grimpe sur les façades, ça va étouffer les arbres, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Mais le lierre a la particularité de fleurir au mois de septembre. Et au mois de septembre, on peut voir une espèce d'abeille qui ne se nourrit que des fleurs de lierre, que du pollen de lierre, qui s'appelle Colletta cederae, qui est l'abeille du lierre. Donc on voit la relation plante-insecte. Si on n'a plus cette plante, elle ne pourra plus se nourrir. Elle ne vole que à cette période en plus. Elle vole à la période de floraison du lierre.
Donc s'il n'y a plus de lierre, elle meurt.
S'il n'y a plus de lierre, elle disparaît. Après, il lui faut aussi des trous dans le sol, qu'elle puisse faire des trous dans le sol pour faire ses petites bourgades. Voilà un exemple assez intéressant et on peut l'observer à Toulouse.
Et guêpes et frelons, je parle du frelon européen, autochtone. Comment ça évolue? Ça, on en voit quand même, mais est-ce qu'elles sont aussi avec des effectifs qui diminuent d'année en année?
Je ne saurais pas dire pour le frelon européen. On en voit, je n'ai pas l'impression que ce n'est pas une espèce urbaine, on va dire. C'est beaucoup plus en campagne, quoi. On le voit encore fréquemment.
Oui.
Mais voilà, un nid de frelon, je pense que les individus dispersent énormément autour. Donc, il n'y a pas un nid tous les 100 mètres, quoi, ça c'est sûr.
Alors, on va parler des espèces d'insectes qui sont apparues ces dernières années. On parle de frelons. Alors, le frelon asiatique, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce que c'est une des espèces dont les effectifs augmentent?
En tant que naturaliste, on ne fait pas de comptage sur les frelons asiatiques. J'avoue qu'on a tellement d'autres trucs à faire sur les espèces locales et en déclin que bon. Et du coup, on n'a pas de données chiffrées. Ou alors, on va avoir des informations qui peuvent être biaisées ou qui vont être données dans le sens de l'augmentation parce que ça peut intéresser certaines activités économiques pour la lutte, par exemple. On a tout intérêt à dire que oh là là, il y en a de plus en plus, il faut sortir les pièges au printemps, il faut capturer les rennes, etc. Mais globalement, de ce qu'on en voit, puisque c'est assez facile à observer en fin d'été quand les arbres perdent leurs feuilles,
oui.
Il y a des nids de frelons asiatiques un peu partout, qu'on appelle frelons à pattes jaunes, normalement d'ailleurs, Vespa velutina, mais il n'y a pas plus de nids qu'avant. De toute façon, à un moment, il y a des limites de territoire, donc ça ne va pas envahir le monde non plus. Il a trouvé sa petite place, comme plein d'autres insectes qui arrivent. Les écosystèmes se rééquilibrent sans arrêt. En fait, un écosystème, ce n'est pas quelque chose de figé. En plus, on prend 2-3 degrés dans la vue, on a des sécheresses de plus en plus fortes, on fragmente les milieux. Donc on n'a plus les écosystèmes d'avant, il faut bien le comprendre, ça. Donc il fait partie du milieu et c'est peut-être lui qui va rapporter un nouvel équilibre.
Parce qu'on disait qu'il était prédateur des abeilles, justement. C'est une réalité. Est-ce que ça pose des problèmes ou pas?
À certaines saisons. Alors, ça pose des problèmes pour les gens qui veulent vendre du miel, qui ont une perte économique. Après, en termes d'impact écologique sur les milieux naturels,
non.
Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une espèce d'abeille qui a fortement décliné. Alors, c'est mal étudié, donc peut-être que dans certains coins, ça a pu avoir un impact. Mais de ce qu'on observe du frelon asiatique, c'est qu'il repère où il y a des ruches. C'est un peu comme si on avait très faim et qu'on voyait un frigo avec une porte ouverte. Voilà, on ne va pas se retenir d'y aller. Quoi.
Oui, oui.
Je le comprends. Donc, il fait du surplace devant une ruche. Il a juste à attendre que ça sorte et que ça rentre. Donc, je le comprends. Il est plus rusé que les autres. Bah, tant pis pour les abeilles, hein, je suis désolé. Mais...
Le moustique-tigre, lui, alors est-ce qu'il pose des problèmes? À part aux humains, ça, on le sait.
A priori, non. En dehors des... Alors, il pose des problèmes indirectement, parce que comme on veut lutter contre lui, on répand des insecticides. Et il pose des problèmes pour la biodiversité parce qu'on flingue le reste. Sous prétexte d'essayer de limiter les populations de moustiques tigres, alors que maintenant, il est bien trop tard, il y en a des millions d'individus partout en France.
On ne pourra pas l'éradiquer.
Voilà, on ne pourra pas l'éradiquer. Alors, ces méthodes de traitement sont dites « safe », mais en réalité, non, elles ne peuvent pas l'être, c'est un insecticide.
Donc, j'allais justement vous en parler, parce qu'on sait qu'il y a des campagnes de démoustication. Ça arrive dans certaines villes, surtout les étés, où on est un peu envahi par les moustiques et tout le monde peste contre eux. Qu'est-ce que vous en pensez de ces campagnes de démoustication? Est-ce qu'elles sont nécessaires ou est-ce qu'elles sont au contraire complètement nuisibles pour toute la biodiversité?
Elles peuvent être à la fois nécessaires et nuisibles. C'est un peu en même temps, mais alors elles sont nécessaires dans le sens où il y a... Dans le cas de ces traitements, souvent c'est parce qu'il y a eu un cas de dengue ou d'une personne qui a été détectée comme positive à une maladie qui est transmissible par ces moustiques. Donc par précaution, on va tout de suite traiter tout un quartier avec un rayon de je ne sais plus combien de mètres autour, mais voilà. Donc effectivement, ça peut être nécessaire en termes de santé humaine, mais par contre, ça va être tout de suite nuisible et destructeur.
Oui, parce que le produit ne tue pas que les moustiques.
C'est des pyrétroïdes, je ne sais plus comment on dit exactement, mais enfin, c'est un grand groupe d'insecticides qui attaque le système nerveux des insectes. Et c'est pas sélectif. Donc, alors, on le fait la nuit parce qu'on dit comme ça, il y a moins d'insectes qui volent. Voilà, on touche peut-être un peu moins les insectes. C'est assez. Il n'y a pas beaucoup de rémanence, ça se détruit vite comme produit. Mais il n'empêche que, voilà, aux premières heures du jour, c'est sûr, c'est tous les autres insectes. Il n'y a plus grand-chose qui vole dans ce cas-là, quoi. Donc, c'est à la fois utile s'il y a vraiment des cas de maladie, mais en même temps, voilà, il faut savoir qu'à chaque fois.
C'est pas sans conséquence, sur la biodiversité, ouais. Évidemment, et notamment les insectes. Et les prédateurs des insectes aussi. Je pense aux chauves-souris.
Les chauves-souris, alors, pour le produit, ça ne doit pas avoir trop d'impact, puisque c'est plutôt censé viser les insectes, encore que, par exemple, c'est reconnu que c'est... Enfin, si on prend les pyrètres, c'est pas bon pour le développement du système nerveux pour les enfants, par exemple. Donc, les chauves-souris, peut-être qu'il y a des effets méconnus, mais c'est sûr que ces bestioles qui se nourrissent d'insectes, globalement, il y a moins à manger, quoi.
Oui. Pour terminer, c'est une question que j'aime bien poser, que j'ai posée précédemment à vos autres camarades de Nature en Occitanie. Est-ce qu'il existe des promenades, des balades d'observation commentées pour découvrir ou mieux connaître les insectes qui existent dans la métropole toulousaine?
Et oui, pas toutes les semaines, pas tous les jours. Malheureusement, on aimerait bien, mais là, encore une fois, c'est une question d'effectif, de nombre de personnes disponibles. Mais l'association organise des sorties nature assez régulièrement. Donc là, il faut se rendre sur le site de l'association. Et on a un groupe d'experts adhérents, en fait. Alors, quand je dis experts, ça peut être tout le monde et n'importe qui. Tous ceux qui ont envie de s'intéresser aux insectes, au début, tout le monde a débuté. Voilà, on n'est pas né expert. Et on le reste tout au long de sa vie débutant parce qu'on est tout le temps en train de potasser de la bibliographie. Donc, tout le monde est le bienvenu pour participer à ces groupes où on fait des études, des inventaires de façon bénévole sur nos week-ends en disant tiens, il fait beau, on va aller étudier.
Je pense qu'on cible certaines espèces comme les papillons sans doute.
C'est ça, ça peut être des suivis. Alors, il y a des protocoles, du coup, ça peut être mettre en place des chronoventaires. Donc, c'est un terme technique pour le suivi des papillons. Donc, on peut demander, n'importe quel bénévole peut participer, il faut se former, apprendre à reconnaître les espèces et après mettre la main dans le cambouis, comme on dit.
Et ça peut devenir une passion très facilement, je pense. Eh bien, le moment est venu de conclure cette émission et donc pour moi de vous remercier, Pierre-Olivier Cochard. Merci d'avoir fait pour nous cet état des lieux des populations d'insectes dans la métropole toulousaine. Nous n'en avons certainement pas fait le tour, mais je pense que cette émission donne une bonne idée de la situation générale pour ces espèces. Je rappelle une nouvelle fois l'adresse du site web de l'association Nature en Occitanie, www.natureo.org. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Enzo Basile. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.